Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Nicolas Drabaudy. Je suis un chroniqueur de gastronomie et de vin et j'ai l'honneur d'être l'ami d'Alexandre de Lursalus, un des grands propriétaires de Bordeaux, qui a écrit ce livre donc, chez Gallimard, qui est une autobiographie. Hein. C'est le récit de votre vie. Hein. Et vous avez mis en sous-titre l'excellence d'un vin. C'est-à-dire que vous avez été le grand monsieur d'Ikem pendant 36 ans, 40 vendanges.
Oui.
40 vendanges. Et après, vous êtes en 2004, vous êtes replié sur Château de Fargues, qui est le berceau familial que vous gériez déjà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire la raison de ce livre? Pourquoi vous avez écrit? Le sous-titre, c'est Excellence d'un vin, histoire d'une famille. Extrêmement important, la famille chez vous.
Oui, 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 on est tout à fait la suite d'une famille. L'étonnement, c'est que ce qui m'a amené à songer à écrire, c'est l'étonnement, la disproportion entre l'enthousiasme que ce type de vin peut provoquer et l'apathie ou l'indifférence ou l'apathie qu'il provoque aussi. Non, ce n'est pas lui qui provoque, c'est plutôt ce manque d'intérêt qui existe et qui est un petit peu actuel et qui fait beaucoup de mal dans l'appellation et chez beaucoup de voisins, surtout les plus petits.
Voilà, vous pensiez que vous aviez à défendre le vin dont vous êtes occupé, qui s'appelle le Château d'Ikem. Hein. Oui. Je rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, Alexandre m'a dit une chose très intéressante. Aux États-Unis, des grands amateurs, des grands connaisseurs, des collectionneurs considèrent que le plus grand vin de Bordeaux, c'est le Sauterne. Vous voyez ? Probablement par référence à Ikem et à d'autres vins. Mais vous voyez, le Bordeaux n'est pas que rouge, comme disait Philippe de Rothschild.
Oui.
Philippe de Rothschild, le Bordeaux, c'est rouge. Ah non ! Ah non, vous voyez ? Donc, je pense que, dans votre point de vue, fort de votre expérience que vous avez eue au château d'Ikem, vous voulez transmettre ce savoir, cette notoriété, et surtout ce goût pour le vin qui est extraordinaire quand on l'a goûté. Vous dites aussi, quelquefois, dans votre livre, que les gens sont émerveillés la première fois qu'ils boivent du Sauterne, de l'Ikem, éventuellement du Fargue. Ils sont émerveillés, ils disent « je ne savais pas que c'était comme ça ». Donc, il y a un émerveillement. C'est ça que vous soulignez dans votre livre.
Un enchantement. Il y a même quelque chose de presque mystique. Je raconte quelques anecdotes avec plus ou moins de restrictions, parce que c'est quelquefois un peu personnel, mais je me souviens très bien, par exemple, d'une personne qui l'épouse d'un grand restaurateur qui m'a dit vous savez, quand je suis reparti d'Ikem sur la route, eh bien, je me suis surprise à prier. Quel est le rapport? Si, il y en a beaucoup. Le vin, c'est beaucoup le mysticisme, c'est beaucoup le... Si, il y en a bien. Enfin, c'est quand même un peu surprenant. Une autre histoire, c'est un chevronné, un professionnel chevronné, suisse-allemand, qui n'est pas particulièrement émotif et qui, un jour, dans une dégustation, il pleurait, il avait des larmes. Et alors, je ne sais plus si c'est moi ou quelqu'un d'autre, enfin, en notre cas, on a dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a perdu quelqu'un de sa famille. Et alors, un de mes voisins m'a dit, mais non, non, vous n'en faites pas. C'est toujours comme ça quand il déguste l'Ikem 67.
C'est formidable, l'Ikem 67. Hein.
Oui, oui, oui.
Parti de chez vous à 30 francs, un truc comme ça. Hein.
Oui, alors.
Et
oui,
après. C'est ça.
Alors, oui, Nicolas, si vous permettez, il y a une histoire qui me revient. C'est celle d'un autre Suisse qui m'avait écouté assez soigneusement. Et le 67, je suis arrivé à Ikem en 68. C'est-à-dire que c'était dans les années 70, par conséquent. Et ce Suisse, André, m'a demandé. Bon, quels étaient les grands millésimes, c'est une question assez courante. Et je lui dis, il ne faut pas rater le 67, parce que le négoce à Bordeaux l'a raté. Et le prix n'est pas du tout à sa mesure, à la mesure de la qualité du 67, parce qu'on considère que le Médoc est bien plus réussi en 66. Et donc, la gloire du millésime, elle va sur le 66 et pas sur le 67. Et alors, ce que je n'avais pas prévu, c'est que cet André m'a pris au mot. Et il est devenu un espèce de monsieur 67. Et on est venu le chercher de partout parce qu'entre-temps, il avait acheté des collections, des caisses en pagaille. Et je ne lui en vendais pas en direct. Par conséquent, il a dû les trouver ailleurs. Et on est venu de la Maison Blanche pour se procurer du 67. C'était une espèce de gag. Et un jour, je vais dans une maison de vente aux enchères, je crois Christie's ou Sotheby's, et je vois mon cher André, et je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Il m'a dit, je vends du 67. Et il revendait donc des caisses, et il avait commencé... effectivement, j'ai eu du mal à le vendre à 30 francs à l'époque, parce que 30 francs, c'était bien, bien onéreux. Et lui revendait ça à 1000, je ne sais plus quoi, francs, probablement. Et puis, alors, comme il avait mis tellement de caisses, il en avait mis 100 caisses à la fois. C'était beaucoup trop. Il a écrasé le marché. Et par conséquent, les dernières partaient à des prix. Il était furieux. Mais je lui ai dit, mais il ne fallait pas faire comme ça. Il fallait venir en plusieurs fois. Enfin, j'ai essayé de lui expliquer le métier que je ne connais pas, d'ailleurs.
Mais... En fait, ce millésime, il a illuminé la suite. Je veux dire, c'est une référence de qualité comme 61 ou 59 au Château Lafitte.
Oui.
C'est un millésime qui est devenu mythique, puisque non seulement les prix sont mythiques aussi, mais en plus, c'est extrêmement rare de boire du 67. Alors qu'à Ikem, il y a beaucoup de vin. On produisait encore probablement 100 000 bouteilles. Vous êtes arrivé à 100 000 bouteilles, Ikem, non ?
Oui. Quand je suis parti, effectivement, c'est une autre partie de mon livre. Je parle de ma clé, le talisman, je ne sais plus comment je l'appelle. Oui. Cette clé, c'était j'avais repéré un détail. Mon oncle, avant moi, me disait, tu peux être tranquille. La production d'Ikem sur à l'époque, c'était, on comptait pas tout à fait 100 000 hectares. Et c'est de 82 500 bouteilles. Mon oncle était féru de mathématiques. Il aimait beaucoup ça. Et donc, il avait fait un calcul en passant par des tonneaux, des barriques, des bouteilles, enfin bref. Et donc, quand je me suis retrouvé dans des crises, ce talisman m'a beaucoup servi et donc j'ai toujours vendu sur cette base. Mais en fait, quand c'est les choses que j'ai pu découvrir à Ikem, on était en grande difficulté à la mort de ce pauvre oncle parce que les prix étaient difficiles déjà à l'époque. Et donc, on faisait des économies. Je me suis aperçu qu'on ne mettait plus de fumier dans les rangs de vigne. Et d'autre part, qu'il y avait une mortalité normale des pieds de vigne et qu'on ne remplaçait pas, qu'on ne complantait pas. Et donc, il y avait des trous qui étaient assez disgracieux enfin, dans un vignoble. Et donc, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne complante pas? Pourquoi est-ce qu'on ne remplace pas les manquants? Et on va dire, mais si vous voulez, on va essayer de faire un effort. Donc, c'était une question de finances. Et au fond, au bout de quelques années, j'ai fait le calcul, tous les nombres de manquants qu'on avait replantés, eh bien, ça représentait l'équivalent de 20 hectares. Alors évidemment, ça s'est vu dans la qualité, pas la qualité, mais dans la production à égalité de qualité, la production d'Ikem.
Alors, historiquement, quand vous arrivez à Ikem en 68, 67, 68, est-ce que le vin est déjà chargé de cette valeur mythique? Est-ce que déjà, aux États-Unis ou dans les grands pays consommateurs, déjà le Ikem signifie un vin absolument hors du commun et unique en son genre?
Ah oui, parce que il y avait la première chose que j'ai faite devant le problème des relations publiques d'IKEM, il fallait manifestement faire quelque chose pour réactiver le commerce. Et je me suis dit, il faut aller aux États-Unis, donc je vais aller à Berlitz. Je suis allé à Berlitz pour rafraîchir mon anglais qui est toujours relatif. Et je suis parti aux États-Unis. Et la solution la plus simple, c'était de dire aux États-Unis, aux Américains, votre président Jefferson est venu à Bordeaux. Je ne sais pas s'il est venu à IKEM, mais en tout cas, il a apprécié le vin et il en a acheté beaucoup pour lui. Il fallait qu'on mette d'ailleurs sur les bouteilles ses initiales. Et également les initiales d'un de ses amis qui était GW. Alors les Américains comprenaient immédiatement qu'il s'agissait de Washington et que ça méritait un examen.
Oui, donc là, il y a une présence historique extrêmement forte.
Très ancienne.
Parce que Jefferson, c'est pas n'importe qui, il fait des classements de tous les grands vins, hein. Déjà, il va à Lafitte, à Aubryon, et il classe ses vins. Il est probablement le plus grand connaisseur de l'histoire jusqu'au début du XXe siècle. Un connaisseur extraordinaire. Hein.
Tout à fait.
Un connaisseur, un dégustateur, hein, avec une finesse d'écriture et de point de vue assez sidérant. Hein. C'est vraiment quelqu'un. Hein. Futur président des États-Unis et un connaisseur. N'imagine pas nos présidents qui vendent les caves qu'ils ont. Enfin bref, pas la peine d'en parler. Donc là vous m'avez mis un tel. L'idée du vin de Sauternes à travers l'histoire et sa mise au point progressive. Alors ça, vous êtes vraiment témoin de ça.
Alors oui, c'est quelque chose sur lequel j'insiste parce que on fait pas très bien on n'a pas beaucoup de discernement dans les vins qu'on appelle doux. Alors j'aime pas beaucoup ce terme. En réalité, ce type de vin, il faut déjà faire un peu le ménage. Et une des distinctions qu'il faut faire, c'est entre le passerillage, qui consiste simplement à être un peu à attendre que les raisins flétrissent, c'est-à-dire qu'ils se dessèchent, qu'ils perdent une partie de leur liquide, de leur jus, de l'eau plus exactement de jus, et donc qu'ils se dessèchent un peu comme comme les raisins de Corinthe. Et il y a un autre phénomène alors qui s'est passé plus tard, ou du moins qui a été remarqué plus tard. Ça a toujours existé, mais ça a été remarqué à l'époque de la visite de Jefferson, c'est-à-dire à la fin du 18e. Il est évident que avec le système des vendanges tardives, il y a eu des succès éblouissants. Ces vins ont acquis une notoriété fabuleuse, et ça, c'est important de le dire, même si c'est avant qu'on ne soit vraiment persuadé du mérite de la vendange par tri successive. Arrivé, donc, j'imagine la situation de mon ancêtre, que je cite beaucoup, Françoise Joséphine, sauvage d'Ikem, ayant épousé un Lursalus, et cette grand-mère... elle avait un intendant qui s'appelait Garros, c'est-à-dire il y a eu toute une famille de Garros qui ont été les intendants de ma famille. Et j'imagine ce Garros interrogé par cette grand-mère qui a été une excellente gestionnaire, qui a même été une visionnaire. Et elle a, on peut imaginer cette grand-mère lui disant à Garros, écoutez, on vend certaines barriques ou certains tonneaux à des prix éblouissants. On vient à IKEM sur les genoux et sur les coudes pour obtenir l'autorisation d'acheter un petit peu de vin. Est-ce qu'on ne peut pas avoir la même qualité parmi les autres barriques? On peut supposer que Garros, qui avait certainement très bien observé ce qui se passait, on peut imaginer que Garros lui a répondu « Mais madame, c'est très simple, mais c'est très coûteux. Il faudrait envoyer nos vendangeurs récolter seulement un type de raisin et un type de raisin paradoxal, puisqu'il faut qu'il soit transformé par la pourriture, qu'on a appelée par la suite la pourriture noble. En fait, cette pourriture n'est ennoblie que par la sélection des vendangeurs que nous avons, et ça, je reviendrai sur les vendangeurs. Mais cette prise de conscience de l'importance de la pourriture, c'est un autre stade très important qui a fait faire probablement, en tout cas à IKEM et chez ses voisins, un espèce de progrès. C'est-à-dire qu'on a été conscient qu'il fallait systématiquement demander aux vendangeurs, non pas de ramasser des grappes, mais d'aller chercher dans les grappes les raisins qui paraissaient les plus convenables, les plus en phase avec ce qu'on avait à l'esprit, qui était quelque chose qu'on connaît bien. IKEM ni Sauternes n'a le monopole de l'usage de ces raisins pourris. Bien entendu, il y a d'autres régions en France. Demain, je serai à Strasbourg, donc j'aurai l'occasion certainement d'en parler avec quelques collègues qui aussi... Mais les champions de l'usage de cette pourriture, pour un certain nombre de raisons, c'est, je crois pouvoir le dire, les Sauternais. Et c'est une invention, non pas qu'on ait oublié la première méthode, la méthode des vendanges tardives, mais c'est un peu un mélange des deux. L'ambition, c'est d'avoir des raisins pourris dans une certaine proportion, pas trop, parce que si on dépasse les limites, eh bien, on va vers une catastrophe, mais c'est qu'il faut qu'il y en ait suffisamment. Et donc, on a rehaussé, à partir de ce fin du 18e, l'objectif avec une technologie, on peut appeler ça comme ça, très précise.
Alors, il y a une chose qui est sidérante quand on a... C'est les différences de couleurs. Est-ce que vous pouvez dire un mot, puisque il y a des millésimes des années 1900, 1920, 1930, qu'on a pu voir ou quelquefois déguster, qui sont noirs. Hein. La couleur est complètement décomposée et autre. Elle n'a rien à voir avec la robe dorée, étincelante des millésimes jeunes. Là, vous avez fait des études. Comment est-ce qu'on explique ce changement radical de l'apparence du raisin?
Alors, c'est une question d'oxygénation. La couleur du vin, des vins de ce type, change avec l'oxydation, donc avec le temps. Parce que le temps, c'est évidemment de l'oxydation dans la bouteille, malgré le bouchon qui est quand même poreux. Et c'est un phénomène qu'on peut aussi activer. Et on en a eu la démonstration récemment sur Internet avec deux bouteilles qui ont été mises en vedette à Londres, deux bouteilles qui étaient tête bêche dans une caisse. Oui. C'était des bouteilles de Climens et l'une est dans un sens. Et manifestement, la surprise était arrivée à Jean-Bernard Delmas, à Aubryon. Je crois que lui avoir donné une caisse à une époque, et il a été très furieux de trouver la caisse sur la tranche. Donc, au lieu qu'elle soit couchée, elle était debout, en quelque sorte. Donc, il a compris que sur 12 bouteilles, 6 étaient debout et 6 étaient le nez en bas. Et quand il a ouvert la caisse, 6 bouteilles étaient plus foncées que les 6 autres. Donc, c'était simplement le bouchon a agi d'une façon différente et le vin s'est coloré d'une façon différente pour les bouteilles qui étaient debout et où l'air passait plus facilement que pour les autres bouteilles.
Mais il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi pour la transformation de la couleur. Hein. Parce que vous pouvez avoir des 1921 parfaits d'une limpidité totale et des 1900 des plus récents très foncés, très noirs, hein, avec un mystère. Alors, terrible.
Un jour, je recevais un de vos confrères anglais ou américain. Et ce confrère, je me dis, il faut vraiment l'étonner. Donc, je vais chercher ce que j'ai de mieux. C'était dans Bordeaux, rue Saint-Laurent. Et je n'avais dans ma cave qu'une bouteille un peu étrange. Je ne sais pas trop pourquoi elle était là, de 1906. Et j'ai amené David Peppercorn, je crois. J'ai amené cette bouteille. Je dis, David... Je pense qu'on ne peut pas la boire parce que, quand même, c'est vraiment très, très foncé. On aurait pu remplir son stylo, tellement c'était foncé.
L'encre, oui.
Oui. Et c'était délicieux. Le 1906 est absolument délicieux, mais ils sont tous très, très, vraiment plus que du vin rouge. Enfin.
Et je me souviens que vous aviez eu des collectionneurs qui vous écrivent en disant, Monsieur Dursalut, est-ce que vous savez comment est le 1847 ou 1867? Il y a même un qui était un Américain, qui était un collectionneur, qui était un homme des travaux publics, qui disait, j'ai 2867, dites-moi comment c'est, j'en ouvrirai une et l'autre avec vous. Ouais. Donc ça, c'est un questionnement qui est unique dans l'histoire du vin. C'est-à-dire, on demande au propriétaire qui n'est pas censé avoir tout bu, Alexandre.
Oui,
oui. Pas censé avoir connu. Connu.
Ben, non, par définition. Oui. D'abord, il y a des bouteilles qui manquent, il manquait dans l'action d'Ikem. Et effectivement, j'ai bu beaucoup de millésimes aux États-Unis à cause de ce phénomène, parce que les gens disaient, ah, mais vous venez, mais c'est l'occasion de déboucher nos bouteilles. Je n'allais pas dire non.
Oui.
Donc, j'ai pris des leçons de cette façon.
Mais ça existe nulle part, enfin peut-être dans les premiers grands crus de Bordeaux. Mais là, qu'on questionne le propriétaire pour savoir qu'est-ce qu'il pense d'un vin qui a un siècle et demi,
c'est
quand même inouï.
Oui.
Comme si vous aviez tout bu ou même eu des notes ou des...
Oui,
c'est une histoire formidable. Hein.
Oui,
tout est mystérieux à Ikem. Hein.
Les notes sont des photos à un moment donné. Oui. Le vin a changé entre-temps.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, cette couleur, on ne peut pas savoir si, par exemple, dans 25, s'il est 67, c'est une couleur normale, puisqu'on en parlait.
Ça a beaucoup foncé. Hein.
Ah ouais, ouais.
Ça a beaucoup foncé maintenant. Oui. Oui.
Donc, c'est presque... C'est noirci, vous voulez dire. C'est foncé.
Oui, c'est assez foncé. Mais ça, alors, Nicolas, est-ce qu'on peut dire que, on est en train de focaliser sur Ikem, c'est un peu une partie de mon expérience,
ah, oui.
Mais c'est ce que je voulais dire dans ce livre aussi, c'est qu'il y a un potentiel dans cette région sur 2200 hectares. Et là, c'est quelque chose qui m'agace de voir que il y a cette espèce d'oubli, ce type de vin, qui se manifeste d'ailleurs de façon diverse. On a par exemple cette question, mais vos vins sont merveilleux, mais avec quoi peut-on les boire? Et donc, c'est une question générale. Bien entendu, que ce soit Ikem, que ce soit Fargue, que ce soit un autre, c'est toujours la même question, c'est une question d'appellation à un niveau de bon cru, bien sûr. Et à quoi je réponds, mais si vous aviez gagné une Rolls-Royce ou une Ferrari à la loterie, vous mettriez au volant, vous direz, mais où aller? Où aller? La question est un peu bizarre parce que, premièrement, il y a de multiples réponses et d'autre part, c'est très catalogué, bêtement, vin de dessert ou
vin du foie gras.
Ou vin du foie gras.
Oui, oui,
alors,
oui.
Non pas que je déteste le foie gras,
oui.
Surtout pas avec du sauterne, oui. Mais c'est idiot parce oui. qu'il y a des quantités de choses qui
bien
sont
sûr.
Merveilleuses.
Bien sûr, c'est un vin de gastronomie. On ne peut
oui.
pas dire le contraire. Vous dites dans votre livre qu'on peut tout. Vous mettez du porc, du veau, de la volaille, en plus des poissons. Et en fait, ce vin va avec tout ce qui se consomme quasiment, hein.
Oui,
je ne dis pas les saucissons, parce que c'est un peu crétin, mais il n'y a pas que... Alors, les gens sont obstrués par le sucre. Ça, vous êtes un combat
contre
le sucre. Hein. C'est un vin normalement sucré, et qui n'a pas raison de faire ses levées de bouclier, alors que c'est un vin d'une telle charge artistique. Sucre ou pas sucre, c'est sa beauté qui est là d'abord.
Oui, on a au fond un peu l'impression qu'en France en particulier, on est, vis-à-vis de ce vin, on agit comme des enfants gâtés. Oui, Sauternes, oui. Il y a une espèce de... On est blasé. Alors quand on trouve, que ce soit aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays, des gens, j'ai eu il y a 2 ou 3 jours l'appel d'un ami de Barcelone, mais son enthousiasme était tel que je me suis dit, mais je suis encore à Ikem avec le préjugé en faveur d'Ikem. C'est vraiment extraordinaire la façon dont il parlait de ce vin. Et bien entendu, la façon de l'utiliser. Parce qu'effectivement, avec la bouteille, il faut presque avoir la mention, comme pour les produits pharmaceutiques, le mode d'emploi, les doses, etc. Il y a un emploi que je remarque chez beaucoup d'artistes. J'ai eu le privilège d'en rencontrer beaucoup, mais ils se font pas ils se posent pas de questions, ils le boivent tout seul en fin de journée, en fin d'après-midi, parce qu'un vieil ami le toque à leur porte. Il y en a un que vous avez peut-être connu dans votre longue vie de journaliste, c'est Frédéric Dard.
Ah oui,
Frédéric Dard, je recommande
magnifique
à tout le
collectionneur.
Monde, la page, la préface qu'il avait consacrée au livre Ikem. Cette préface est un véritable chant de gloire de ce vin. Mais c'est absolument, on peut la reprendre, c'est le Sauternes.
C'est là qu'il dit, c'est la lumière bue.
C'est de la lumière
bue. C'est très génial, parce que c'est la lumière qui a créé le vin. Et après qu'on boit, oui, c'est un très beau mot.
Hein. Enfin, mon palais mérite son nom.
Oui, voilà, bravo. Oui. Georges Lepré disait ça aussi. Ah, Frédéric Dard, oui, ça c'est typiquement un type dont la fortune a servi à acheter vos vins et à les faire. Il buvait du 21. Et il voulait que je lui recherche du 21. Donc
ah, oui.
Il faudrait aller dans les ventes aux enchères pour savoir qu'est-ce qu'il y a, mais c'est très rare le 21. Et je me souviens de ça quand j'ai vu à Genève. Mais lui, il ouvre ça comme ça, hein. Comme Pierre Perret, c'est-à-dire les vraiment grands amateurs, on a envie de ça, on l'ouvre.
Voilà.
On n'attend pas que le Château Margaux 61, encore 20 ans de plus, non, on l'ouvre maintenant. Frédéric Dard, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on boit le vin parce qu'on a envie de le boire.
C'est ça.
C'est génial.
C'est ça.
Alors qu'est-ce qu'on a ? On a peut-être que des radis, mais après, il y a une boularde.
Oui.
Voilà.
Oui.
Voilà. Alors, je vais vous poser une ou deux autres questions. Donc, la différence entre vendange tardive et vendange par tri successive, ça, vous avez affronté quand vous étiez le patron d'IGEM.
Oui, mais on constate qu'il faut vraiment... c'est du perfectionnisme. On parle d'extravagance du parfait.
Oui, extravagance d'IGEM, oui.
Certains auteurs. Le vin de Sauternes, ça nécessite un perfectionnisme. Il faut vraiment des gens qui suivent la vigne, qui vivent la vigne toute l'année. Ça va commencer en janvier avec la taille, mais ça va continuer constamment. Et mon équipe de Fargues va entamer prochainement la taille.
Oui.
Et ensuite, toutes sortes de...
d'opérations, oui.
Quand j'étais à IKEM, on avait compté 50 soins différents dans la vigne avant d'aborder les vendanges. Et j'ai dit ça à Miro, qui m'a dit « Ah tiens, c'est intéressant ». Et quelques jours après, il m'a dit « J'ai fait le décompte, eh bien, j'en serais plutôt à 55, au moins ». Parce qu'il y a toutes sortes de petites interventions féminines, d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup d'ouvrières qui aiment leur travail et qui soignent leur... Quand on les voit travailler, on pense à une femme s'occupant de ses enfants, de la cuisine, un côté féminin. Elle soignait la vigne avec des gestes qui sont précis, mais rapides, qui sont en passant. Et donc, c'est du perfectionnisme qui n'est pas toujours compris, parce que vous savez, comme moi, qu'on a de temps en temps des gens qui ont des histoires. Il y en a une, c'était mon oncle recevant des bourguignons, qui nous disant bah, écoutez, nous, on sait ce que c'est qu'une catastrophe, on vous offre toutes nos condoléances. On dit mais non, pourquoi ? Je suis très content, la vendange est parfaite, vous voyez, la pourriture, elle est prête. Ils n'avaient pas du tout compris à l'époque, ils ne savaient pas cette particularité. Et de même, nous avons quelquefois des gens, des vendangeurs qui, au bout de 3 jours, disent « Écoutez, nous, on aime bien la vendange, mais quand c'est joyeux, quand etc. Mais nous, c'est triste, c'est la mort. C'est, effectivement, le raisin qu'on laisse pourrir, c'est du raisin qu'on arrête avant sa mort et auquel on redonne une autre vie. » Il y a quelque chose, même
métaphysique,
culturellement, qui est prodigieux. Prodigieux, ça rejoint. On avait, dans le cadre de l'Académie, invité le patron d'Hermès, Jean-Louis Dumas, que je connaissais un peu dans le comité Colbert. Et je lui ai dit, écoutez, j'aimerais bien que vous veniez un jour vous exprimer devant l'Académie. Et il était venu, et il avait commencé son discours en disant « Écoutez, je n'ai rien préparé ce soir, qu'est-ce que je vais dire ?» On lui dit « Ça commence mal. » Et il est parti sur ce que j'espérais, sur les de voyages qu'il faisait en Amérique du Sud pour aller trouver des matières spéciales pour faire des peaux, des gants, des, etc. Et il nous a dit, mais nous, quand vous voyez une tannerie, tannerie, c'est tanaos, vous voyez ce que c'est, le tanin du chêne. Et quand ces cadavres arrivent, ils sont destinés à la mort, et au fur et à mesure qu'ils montent dans les étages, ils retrouvent une autre vie. Eh bien, nos raisins trouvent une autre vie alors qu'ils étaient au bord de la mort.
Alors, il faut que vous disiez un mot du château de Fargues. Hein. Donc, en 2004, quand vous quittez Ikem, vous vous repliez dans la maison familiale, dans la demeure familiale, qui est le patrimoine de votre famille. Et là, il y a 15 hectares. Là, il y a 15 hectares. Voilà. Et vous dites dans votre livre que vous allez entreprendre de faire les mêmes opérations visant la qualité, la diffusion, le prestige à Fargues qu'à Ikem. Donc, c'est un point de vue très noble et très qui vous concerne au premier chef, puisque ça, maintenant, vous êtes chez vous là-bas, avec 15 hectares. Il s'agit de... et d'ailleurs, vous avez eu des notes magnifiques. Hein. Vous avez eu des appréciations dans la Revue du vin de France, mais d'ailleurs, extraordinaires. Vous avez eu 19 sur 20. Enfin, je veux dire, c'est que des mathématiques, mais quand même, ça veut dire qu'il y a une beauté interne à Fargues et surtout un vieillissement qui est magnifique. Hein.
Oui, alors c'est très... effectivement, le Fargues, pour vous le dire en deux mots, est une vieille propriété dans la famille, puisqu'elle est arrivée dans un mariage qui a eu lieu en 1472. Mais en fait, cette propriété qui fait 175 hectares, ou qui faisait, parce qu'un petit peu de plus maintenant, servait à faire du lait, des légumes probablement, des céréales, du bois, etc., pour les autres propriétés familiales. Ma famille a été très intimement mariée à cette région de Sauternes et a eu de nombreuses propriétés au fil des générations. Un arrière-grand-père avait, disait-on, 700 hectares de vignes à Sauternes. Sur les 2200, c'est pas mal. Et donc, les autres propriétés bénéficiaient de cette espèce d'autarcie en interne. Et mon oncle, revenant de la guerre de 14, je le suppose reprenant son héritage, parce qu'il avait hérité d'un chef de famille, et son père n'était que son tuteur. Donc son père, bien qu'ancien officier de l'armée, avait rendu son tablier, enfin avait pris sa retraite prématurément pour s'occuper des affaires de son fils. Donc, sortant de la guerre de 14, l'un commandant et l'autre capitaine, l'autre ayant franchi les 21 ans, il y a dû y avoir un peu une prise de bec. Parce que mon oncle donc, a dit à son père, ou du moins donné les instructions pour qu'on replante Fargues, qui était connu pour faire du vin rouge en grosse quantité. Donc, dans les vieux ferrets, on en témoigne. Et donc maintenant, nous héritons de ces 15 hectares de vignes qui, entre-temps, ont été arrachés et renouvelés. Mais quand on plante de la vigne, il ne faut pas oublier que c'est à très long terme. Avant que la vigne ne donne, il faut attendre la sixième feuille. Et puis ensuite, il faut attendre que les vignes soient un peu plus âgées. Donc il y a toute une notion du temps qui est très importante. Ce qui fait que le premier millésime de Fargues, c'est le 43. Mis en bouteille en 49. Alors, c'est une start-up en somme. Moi, je continue avec beaucoup d'optimisme cette replantation, cette remise en ordre d'un vignoble qui est situé sur une sorte de langue de terrain. Il y a Ikem, il y a ensuite Rieussec et il y a ensuite Fargues. C'est la même altitude, c'est le même type de terrain. Bien entendu, il n'y a pas l'extraordinaire variété de sol d'Ikem, mais il y a quelque chose qui peut faire de très bons vins, et vous en témoignez il y a 30 secondes. Donc, c'est ce qu'on fait, et j'ai un petit peu agrandi les proportions, parce que je crois à une redécouverte de ce vin, nécessairement, parce que les modes sont peut-être contraires, mais la mode, c'est ce qui se démode, et de toute façon, on reviendra à ce qui est beau ou à ce qui est bon, et en tout cas à ce qui est vrai.
Ça, c'est votre combat. Hein. C'est votre combat pour resituer Fargue et Ikem. Mais enfin, Ikem, non. C'est Ikem a sa vie. Hein.
Oui.
Mais Fargue, c'est un combat que vous menez maintenant. Hein, puisque c'est difficile de vendre le vin, puisque le négoce y croit peu. Hein, c'est ça votre combat aussi. Hein.
Le négoce a besoin d'être remis en selle, hein, réorganisé. Effectivement, il y a une sorte d'apathie. Et souvent, le négoce nous dit, mais il n'y a pas de marché. En réalité, il s'agit de trouver, si on prend les 2200 hectares de sauternes multipliés par un rendement un petit peu optimiste, ça doit faire moins de 5 millions de bouteilles. Qu'on ne trouve pas autant de dégustateurs sur l'Europe, c'est déjà extraordinaire. Alors, si on a le monde entier à ses pieds, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Il y a des amateurs, il y a même des maris qui se plaignent auprès de moi parce qu'ils me disent que je les ruine, parce que leurs femmes préfèrent le sauterne et ne boivent pas de vin rouge.
Très bien. Oui. Or, en fait, ce qu'il faut que vous disiez aussi, c'est que Fargue est d'un prix de vente beaucoup plus sympathique, j'allais dire, beaucoup plus aimable que Ikem.
Oui,
hein, Fargue a des prix en moins de 100 euros ou 60 euros.
Oui, il est en train de passer les 100 euros. Oui. Mais le prix de vente est une chose, le prix de revient en est une autre.
Et
malheureusement, nous sommes largement, depuis des années, à faire du sous-marin. Alors, on aimerait que les amateurs en profitent, mais ce n'est pas toujours le cas. Ils ne sont pas toujours conscients du fait que, dans ce type de vin, c'est un vin de luxe. Quand on essaye d'en faire un vin de tous les jours, c'est idiot. C'est un vin d'exception, c'est un vin de fête, c'est un vin de célébration. Ce n'est pas un vin qu'on... Enfin, sauf si on est très... On trouve des... Mon fils a trouvé une Chinoise qui était très heureuse d'apprendre l'existence de Fargue à un prix largement inférieur à celui d'Ikem, parce qu'il dit, parce que tous les jours, qu'on est, c'est un peu cher.
Oui. Mais en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est conquérir, je veux dire, des sommeliers, par exemple, ou des restaurateurs, un par un.
Oui.
Hein,
oui,
en
oui.
gros, c'est ça. Hein.
Oui,
par
oui.
exemple, je voyais Guy Savoie, qui servait une épaule d'agneau, mais un lièvre à la royale, avec un sauterne.
Oui.
Et je veux dire, c'est le sommelier qui avait décidé. Ça allait très, très bien. Est-ce que vous imaginez un lièvre à la royale bien chargé en foie gras et en truffes avec un vin blanc magnifique, voyez. Donc ça, c'est une vraie créativité dans le service.
Oui,
donc c'est comme ce que fait Beaumard avec ses asperges. Hein. Donc il y a des types qui pensent quand même que le vin est fait pour être accompagné d'un mets.
Voilà.
Lesquels ?
Quand on va au restaurant, on fait un peu une inversion. On commence par commander le menu. Oui. Et puis ensuite, on dit quel vin. Il faudrait faire autrement et dire autour de ce vin, autour de cette bouteille tellement enviable, eh bien, qu'est-ce qu'on va... On va demander un effort de créativité au chef, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir... Et autour d'un sauterne, c'est très simple. Prenons le simple poulet du dimanche. C'est la chose la plus simple qui soit.
Et même d'autres viandes. En fait, vous donniez, je me souviens avec elle, vous donniez des tourtes, hein, des tourtes farcies, des choses comme ça. Ça, c'est un peu de la grande cuisine, mais c'est que vous dites, eh ben, le poulet du dimanche avec un grand sauterne, pourquoi pas ? En plus, il y a une harmonie dans la couleur.
Oui,
il y a une écologie de la couleur, comme dirait Puiset. Une écologie. Hein.
Oui.
Ah, et le doré, il est dans les deux éléments. Hein.
Tout
à
fait.
Quelque chose, hein. Là, vous dites, vous citez un écrivain de Bordeaux que j'ai beaucoup aimé, qui dit que ce que vous faites, c'est un entêtement de civilisation. Hein. Vous êtes un entêté du sauterne. Hein.
Oui.
Donc, entêtement de civilisation, ça, c'est Pierre Veillet qui avait trouvé un grand écrivain de Bordeaux, hein, grand écrivain, qui est mort, hélas. Il avait écrit ça, un entêtement de civilisation. C'est ce que vous faites. Vous le citez dans votre livre, ça. Hein. C'est-à-dire, il faut s'acharner, en fait. C'est ça que je veux dire.
Et j'aime bien le mot civilisation, parce qu'il y a dans ce vin vraiment une parcelle de civilisation. Il témoigne de la civilisation de notre pays. Le sauterne a été copié dans tous les pays du monde. On a essayé d'en faire et on n'a jamais réussi. Parce qu'il n'y a pas forcément le terroir, il n'y a pas forcément ce climat un petit peu humide qui fait...
Votre rivière, c'est votre rivière. Hein.
Pardon ?
Votre rivière.
La rivière du Ciron,
oui.
C'est certain qu'on a une... Pourquoi
ça s'appelle l'écosystème.
Le raisin, pourrit-il de cette façon si précieuse, si bien, je n'en sais rien au bout de près de 50 ans, mais c'est certain qu'on a un privilège de sol. La délimitation à 2200 hectares, ça veut bien dire qu'il y a un type de sol qui est pris. Alors, la pourriture existe dans tous les pays du monde, mais on n'en sait pas en tirer un parti comme on le fait en Sauternay. Oui. Donc, vive le Sauternay.